Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, changement de programme en Turquie, de programme scolaire pour tout dire. Dans les manuels d'histoire, le terme de Turkistan, autrement dit le pays des Turcs, a remplacé celui d'Asie mineure. Un changement qui illustre l'influence croissante de l'extrême droite et du nationalisme dans le pays, mais aussi la rivalité géopolitique avec la Russie. Décryptage avec notre correspondante à Ankara, Anne Andlauer.
Orta Asya yerine Türkistan kavramı getirildi.
Orta Asya değil, Türkistan.
Orta Asya yerine Türkistan ifadesi kullanılacak.
Pas Asie centrale, Türkistan. Début octobre, en Turquie, les chaînes d'information proches du président Erdogan et de son allié d'extrême droite, le Parti d'Action Nationaliste, ont chaudement salué la nouvelle. Dans les manuels d'histoire, on enseigne désormais qu'il faut dire « Turkistan », littéralement « pays » ou « terre des Turcs », pour désigner l'Asie centrale. Sur les réseaux sociaux, certains médias en ligne reprennent l'information pour mieux la justifier. « Asie centrale » serait une expression de propagande russe pour effacer de ces régions la longue histoire des peuples turcs. Une histoire dont la Turquie qui serait en quelque sorte la dépositaire. Exemple sur la chaîne de Fikriyat, maison d'édition de référence pour la pensée islamique turque.
L'expression Asie centrale s'inscrit dans le cadre des politiques d'assimilation, mises en œuvre depuis des siècles par l'administration russe à l'égard des États et des peuples turcs. L'objectif est de supprimer le mot Turkistan de la langue des Turcs et de rendre ces peuples étrangers à leur propre terre. L'Asie centrale est un terme géographique. On ne peut pas dire que le concept d'Asie centrale soit erroné, mais il est très important de promouvoir le terme Turkistan afin de garder vivante la riche histoire du Turkistan. C'est une prise de position face aux politiques d'effacement identitaire.
Les Turcs sont bel et bien originaires d'Asie centrale. Guerriers nomades, leur histoire commence au 5e siècle dans les steppes de Mongolie et les mènera en Anatolie au début du 2e millénaire, cette Anatolie qui forme l'essentiel du territoire de la Turquie moderne. Mais chez les plus nationalistes, l'attachement national se double d'une adhésion à l'idéologie panturquiste, une appartenance bien plus vaste à la grande famille ethno-linguistique des peuples turciques, une famille dont le berceau, l'Asie centrale, mériterait donc le titre de « pays des Turcs ». Evelyn Gülez est secrétaire d'éducation d'Eğitim Sen, principal syndicat des enseignants de gauche.
Le gouvernement porte une conception uniformisante qui rejette complètement les différences. Il existe de nombreuses nations, de nombreuses langues et de nombreuses religions en Asie centrale. Mais le pouvoir actuel prône une vision qui efface tout cela derrière le seul étendard du nationalisme turc. En d'autres termes, le mot Turkistan, c'est le résultat d'une conception qui rejette tous ceux qui ne sont pas turcs et qui ignore toutes les religions qui ne sont pas de la croyance sunnite hanafite. Malheureusement, en disant Turkistan à la place d'Asie centrale, la seule chose que nous enseignons à nos enfants, c'est le nationalisme.
Cette énième polémique intervient au moment où enseignants et élèves turcs ont découvert à la rentrée les nouveaux programmes scolaires. Ceux-ci ambitionnent de former, je cite, « des générations morales et vertueuses ayant pour idéal d'être utiles à la nation ». De l'école maternelle au lycée, chaque cours est censé promouvoir un certain nombre de valeurs présentées comme nationales. Par exemple, les cours d'histoire, ceux dans lesquels les élèves étudient le Turkistan en lieu et place de l'Asie centrale, doivent transmettre le patriotisme. Une lecture très nationaliste qui n'a rien de nouveau, mais que 22 années de pouvoir du Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, allié depuis 8 ans à l'extrême droite turque, ont exacerbé. Fatma Gök, spécialiste de l'histoire des politiques éducatives, lie cette transmission forcée d'un nationalisme panturquiste à la permanence de la question kurde.
S'il y a une question non résolue en Turquie, c'est bien la question kurde. Le nationalisme sert à légitimer les interventions de l'État dans les régions à majorité kurde de Turquie et de l'autre côté de la frontière. Et même si cette veine nationaliste a toujours existé, le pouvoir actuel l'a portée à un tout autre niveau après l'échec des derniers efforts de paix en 2015. La non-résolution de la question kurde est un obstacle majeur pour ceux qui prônent une société et une éducation égalitaire et respectueuse des libertés en Turquie. Ce n'est que le jour où ces problèmes seront résolus que nous serons en mesure de mettre en place des politiques éducatives plus démocratique pour une société plus démocratique.
Dans les médias russes, la promotion du Turkestan a été fraîchement accueillie. Certains accusent Ankara de menacer les intérêts de la Russie en Asie centrale et même de vouloir former une coalition anti-russe. Sans surprise, l'initiative n'est donc pas du goût des cercles pro-russes en Turquie, ceux qu'on appelle les eurasistes. C'est le cas par exemple de l'universitaire Cüneyt Akalın, interrogé par la chaîne eurasiste Ulusal Kanal.
Quand vous essayez de réécrire l'histoire, comme le font les responsables du ministère de l'Éducation nationale, vous risquez d'en payer le prix, car d'autres pourraient faire pareil et décider par exemple d'appeler à nouveau Constantinople notre belle Istanbul. Il pourrait aussi y avoir des conséquences en politique étrangère. Ces grands mots peuvent plaire à certains cercles, mais ils peuvent aussi faire beaucoup de tort à la Turquie.
Des critiques qui n'empêchent pas la Turquie de mener une politique d'influence de plus en plus active en Asie centrale, au moyen de coopérations économiques, militaires et culturelles. L'invasion russe de l'Ukraine semble même avoir donné un nouvel élan à ses visées centra-asiatiques.
« 232 personnes arrêtées ces dernières 24 heures en Turquie pour liens présumés avec des organisations terroristes kurdes. Encore un exemple d'une nation qui tente d'effacer ses minorités, qu'elles soient grecques, arméniennes ou kurdes. C'est tout l'objet du travail de la sociologue Pinar Selek, ce qui lui a d'ailleurs valu plusieurs condamnations à la prison. Elle vit aujourd'hui en exil dans le sud de la France, visée par une énième poursuite judiciaire de l'État turc. » Dans son livre « Parce qu'ils sont arméniens » aux éditions Liana Levy, Pinar Selek raconte la répression de cette communauté, le refus de nommer le génocide de 1915 et le négationnisme qui touche tous ceux qu'on appelle les minorités. Elle nous explique pourquoi.
Ce négationnisme, c'est le moteur du nationalisme et le récit par rapport à ce qu'on a créé pour les Arméniens, ça continue à nourrir toutes les peurs, toutes les violences actuelles, etc.
Ce négationnisme, en fait, il se traduit dans beaucoup de choses du quotidien, par des insultes, par la disparition des noms de rue, même par des impôts assez fallacieux. Expliquez-nous.
Bien, moi, je me souviens, j'ai écrit dans le livre qu'on nous apprenait à l'école primaire que les Arméniens sont des ennemis intérieurs. On nous apprenait qu'il y a des ennemis extérieurs, et des ennemis antérieurs, c'est des Arméniens. Et on ne parle pas des Kurdes parce qu'on n'acceptait pas qu'il y avait des Kurdes, c'était des Turcs. Voilà, c'était un peu comme ça. Et après, il y a eu beaucoup de violences collectives. D'abord de l'État par rapport aux impôts sur la fortune, à la période de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vraiment ruiné les Arméniens. La plupart ont dû partir, donc il y a eu beaucoup d'immigration après. Et juste 10 ans après, il y a eu beaucoup de pogroms en utilisant quelque chose sur le Chypre, sur la Grèce, en visant aussi les Grecs, mais ils ont visé toutes les minorités, tous les chrétiens, disons. Et à un moment donné, c'est vraiment incroyable, je réfléchis dans mon dernier livre, Le chaudron militaire turc, comment c'est possible de mobiliser ces personnes civiles qui font des pogroms contre les Arméniens. Après, les mêmes personnes, ils ont fait contre les transsexuels, ils ont fait contre les Alevis, donc ça continue.
Et tous les noms arméniens ont disparu de l'espace public.
Tous les noms arméniens ont disparu de l'espace public. Il y avait des architectes qui signaient leur œuvre sur les anciens immeubles, vous voyez une petite signature. Ils ont tous effacé avec un béton, je ne sais pas de quoi. Parce que l'oubli, c'est quelque chose qui est un mécanisme de pouvoir. Donc, ils œuvrent l'oubli. Donc, on peut faire toutes les violences. Après, on va les faire oublier, on va effacer. On ne va pas effacer seulement la population, on va effacer leurs traces. On va effacer tout ce qui prouve qu'il y avait une existence arménienne dans ce pays. Moi, dans mon livre, j'ai dit tous les récits qu'ils nous racontaient, donc on n'a pas fait génocide, on n'a pas fait le massacre, on n'a rien fait. Alors, ils n'existaient pas.
Un négationnisme qu'ont intégré beaucoup d'Arméniens qui ont choisi de rester en Turquie et qui ont changé leur identité. Rand Dink, votre ami journaliste arménien assassiné en Turquie, lui-même, avant d'être un militant très farouche de la cause arménienne, avait lui-même changé d'identité.
Je crois que le plus grand péché pour l'État turc de Grant, c'était de rendre visibles tous les Arméniens islamisés à l'Anatolie, en Mésopotamie. Il y a eu une centaine, même plus de milliers d'Arméniens qui ont, pour se protéger, qui ont dit que non, ils sont musulmans. Et Grant, quand il y avait son journal à gauche, il avait vraiment travaillé pour les rendre visibles et leur donner la parole. Et ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire, oui, nous sommes arméniens. Et ça met aussi en question l'identité turque. Qu'est-ce que c'est que l'identité turque? Parce qu'il y a plein de gens qui parlent de l'Arménie, etc. Et une des plus grandes péchés, par exemple, je dis comme ça, entre guillemets, pour l'État turc de Rant, c'était ça.
Merci beaucoup, Pinar Selak.
Merci à vous. Merci à vous.
Pinar Selak, nous avons rencontré dans le cadre du festival Un week-end à l'Est qui se tient jusqu'au 30 novembre à Paris. C'est la surprise électorale de cette fin d'année en Roumanie pour le premier tour de la présidentielle la semaine dernière. C'est un candidat de l'ultra-droite pro-russe, Călin Georgescu, qui est arrivé en tête. Tout n'est pas joué pour autant. Les électeurs doivent encore choisir cette semaine leur parlement, sans parler du second tour de la présidentielle. La Roumanie, un pays qui a perdu 5 millions de citoyens partis travailler à l'ouest. Résultat, le pays doit faire de plus en plus appel à l'immigration pour compenser. C'est le reportage à Timișoara, à l'extrême ouest du pays, signé Benjamin Ribou.
Ali est afghan. Voilà 15 ans qu'il a quitté son pays et la province de Ghazni, où il combattait les talibans. Son exil devait le conduire en Norvège, mais il a été arrêté dans son parcours dans un pays dont il ne connaissait même pas l'existence, la Roumanie. Les débuts ont été difficiles, mais aujourd'hui Ali ne veut plus quitter la Roumanie car elle est devenue plus attractive pour les salaires et les opportunités.
C'est en Roumanie qu'il y a le plus d'emplois. En une demi-heure, tu trouves du travail dans n'importe quel domaine. Tu n'as qu'à ouvrir Internet, c'est très facile. Par contre, il ne faut pas être trop exigeant. Si tu t'attends à gagner 2000 euros d'emblée, tu peux toujours courir, ça n'arrivera pas. Il te faudra 10 ans, et encore. Mais si tu acceptes un petit salaire et que tu montres ce que tu sais faire pour l'entreprise, tu verras que ton salaire augmentera. Pour moi, aujourd'hui, ça va. Lors de mon dernier contrat, j'avais 1500 euros bruts pour vivre en Roumanie. C'est acceptable, même si ça commence à être un peu juste, c'est vrai, notamment car je viens d'avoir un enfant et que rien que pour le loyer, j'en ai pour 400 euros.
Ali bénéficie actuellement du généreux congé de paternité roumain, 2 ans, à 80% de son salaire. Même s'il sait bien que la Roumanie investit moins que les pays d'Europe de l'Ouest pour former sa main-d'œuvre étrangère, il voit bien qu'ils sont de plus en plus nombreux à débarquer ici légalement, du Pakistan, d'Inde, du Sri Lanka. Ces migrants économiques sont recrutés par des agences pour travailler dans la construction, dans des restaurants ou comme livreurs. Sur la base d'un contrat de travail, ils reçoivent un permis de séjour temporaire, souvent un logement et un salaire qu'Ali estime aux environs de 500 euros par mois. Mais pour cela, on ne compte pas ses heures. Ce matin, Ali est venu discuter de son allocation paternité au centre de résilience et de mobilisation communautaire, un espace financé par la mairie pour gérer l'afflux de réfugiés ukrainiens à Timișoara. Originaire d'Odessa, Irina est arrivée le 26 février. Elle parlait déjà le roumain avant de venir et elle fait de la traduction pour aider ses compatriotes à s'intégrer et trouver un travail.
Beaucoup de patrons profitent du fait que ces personnes ne sont pas suffisamment bien informées sur la législation ou sur le marché du travail ici. Cela rend leur situation très difficile, car ils ne se sentent pas protégés et ne connaissent pas leurs droits. C'est dommage. Le pays est plutôt bien, les gens aussi, mais leur venue n'est pas perçue comme une opportunité. Ce sont pourtant des gens qui veulent travailler et faire des choses ici.
Irina estime qu'il y a 2000 réfugiés ukrainiens à Timișoara aujourd'hui. Ses compatriotes savent bien qu'en Europe de l'Ouest, les salaires et les perspectives d'évolution sont meilleures. Beaucoup choisissent pourtant de rester ici pour garder une certaine stabilité dans un pays proche culturellement. Faute de diplôme reconnu, ils travaillent dans la restauration, l'hôtellerie ou font des ménages. Annika, 28 ans, est originaire de Transcarpathie en Ukraine, région frontalière de la Roumanie.
Nous, on est venus 3 mois avant le début de la guerre pour travailler dans la construction, mon mari et moi. Normalement, je pose du mastic, de l'enduit. Mais là, je suis enceinte. On a toujours fait ça, un coup à Moscou, un coup en Roumanie. Chez nous, il n'y a jamais de travail. Et ici, on touche 35 dollars par jour, au noir. À Moscou, c'était mieux payé peut-être, mais ici, c'est plus facile car on y parle roumain et c'est notre langue maternelle. Pour notre plus grand à l'école, c'est mieux aussi.
Contrairement aux réfugiés ukrainiens, le nombre de migrants économiques des pays hors UE pouvant venir travailler en Roumanie est fixé chaque année. Et pour eux aussi, il y a des difficultés. Angela Ciuparad, directrice du centre.
Le nombre de migrants a fortement augmenté, mais les capacités de prise en charge des services de l'immigration n'ont pas augmenté, ce qui a conduit à de très gros blocages. On ne s'est pas posé la question de leur intégration chez nous et comment adapter tous nos systèmes publics d'assistance sociale, de santé et d'éducation. Par exemple, on n'a pas réfléchi au fait qu'après un certain temps, ils allaient faire venir leur famille ici.
Angela constate que dans d'autres villes aussi, les choses bougent dans la bonne direction. Le manque de connaissance du pays est un gros handicap pour ces travailleurs, qui sont des proies faciles pour certains employeurs peu scrupuleux. Les estimations concernant le travail au noir varient considérablement, allant de 500 000 à 1,5 million de travailleurs non déclarés. Plus fiables, les chiffres de l'économie informelle. Pour la seule année 2022, celle-ci représentait 29% du PIB roumain, selon un rapport commandé par une commission du Parlement européen. Music.
Musique. Et on vous retrouve, Vincent Teval, pour la chronique musique. Bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
C'est une vraie musique du monde, née en Suisse, que vous nous faites découvrir.
Un peu de prospective aujourd'hui avec un tout jeune duo suisse, Rochani, formé en 2022 à Genève par la guitariste et chanteuse Roxane Dumont et la bassiste et claviériste Inès Mouzoun. Les deux musiciennes se sont choisies un nom, Rochani, qui signifie « lumière » en farsi. Un clin d'œil à la mère de Roxane, qui est iranienne, et une petite indication sur les influences à l'œuvre dans leurs chansons, qui viennent non seulement de leurs racines perses, marocaines et bulgares, mais aussi d'une curiosité tous azimuts pour les sonorités du monde entier. De la cumbia à la bossa en passant par l'afro dance hall, elle les décline au fil de 6 morceaux d'une pop électronique dansante interprétée en français, en espagnol et en farsi sur un maxi paru cet été. En attendant un premier album prévu pour 2025, le duo sera en concert la semaine prochaine aux Rencontres Transmusicales de Rennes.
De Rochani dans Accent d'Europe. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Stéphane Desfossés. Retrouvez-nous en podcast sur notre site et sur l'application Pure Radio. À demain.